Deuxième partie, chapitre 6, la revanche du Nouvelliste. À vrai dire, Paris, pour employer une expression familière, n'en menait pas large, d'autant que de nouveaux phénomènes étaient survenus. La nuit précédente, on avait vu des lueurs singulières se dégager de l'appareil qui s'enfouissait à chaque instant davantage, et d'où il semblait qu'une intarissable source électrique lança de continuelles effluves. Les journaux faisaient rage. Naturellement, les feuilles hostiles au progrès clamaient à la faillite de la science. Et que faisait cette commission qui comportait dans son sein toutes nos notoriétés académiques et qui siégeait en permanence? En fait, il semblait que les discussions dégénéraient en papotage, incohérent et inutile. L'illustre M. Verloret, le roi de l'aviation, comme on l'avait surnommé depuis son invention du parachute à roulettes, avait seul émis un avis assez sensé pour allier tous les suffrages. Selon lui, l'appareil de Ménilmontant était une sorte d'hélicoptère basé sur le principe exposé en 1784 par Launay et Bienvenu devant l'Académie des sciences et que renouvela Ponneau en 1870 en utilisant le ressort à caoutchouc. Il rappelait ensuite les magnifiques expériences de M. Marais avec ses insectes mécaniques. Tout indiquait qu'on se trouvait en présence d'un appareil de cette nature et où la démonstration de cette hypothèse s'affirmait dans les palettes des lys qui avaient été découvertes dans le terrain vague. Ce premier point semblant acquis, M. Verloret passait à la question du moteur dont la puissance lui paraissait d'être énorme et qui, très probablement, était actionné par l'électricité. Soit, répliqua M. Allavoine, le génial régénérateur de l'automobilisme. Ceci est un fait constaté, mais il ne faut pas être grand clerc pour formuler une hypothèse que nul ne songe à combattre. Moteur électrique, fort bien, mais comment se peut-il que le moteur ne soit pas encore épuisé? Comment expliquer son action continue, qui à l'heure actuelle s'exerce même sur le terrain dans lequel l'appareil menace de disparaître, comme si un mécanisme invisible agissait en manière de perforation? Qui de nous connaît une pile qui est en effet perpétuelle avec une pareille puissance? L'explication de l'honorable M. Verloret n'est qu'une question qui s'ajoute à une autre question. Électrique, d'accord, mais quelle est la source de cette électricité? Comment pouvons-nous tarir cette source? C'est pour résoudre ce problème que nous sommes ici et il ne semble pas que nous ayons fait encore le moindre pas vers sa solution. Sur cette constatation pessimiste, la discussion s'était envenimée et les observations aigre-douce avaient corsé outre mesure les argumentations qui dégénérèrent bien vite en querelle personnelle. On vit même deux de ces illustres chauves prêts à se prendre à ce qui pouvait leur rester de cheveux. Le grave journal Le Temps, ayant paru à 5 heures, ne pouvait s'empêcher, en donnant un compte-rendu humoristique de cette séance mouvementée, de terminer son spirituel article par la phrase proverbiale « Et voilà pourquoi votre fille est bête !» Paris aurait bien voulu s'égayer, mais en vérité, une étrange inquiétude régnait. Un véritable malaise serrait toutes les poitrines et les plaisanteries se figeaient sur les lèvres. Certes, les terrasses des cafés étaient pleines, mais il n'y régnait pas cet insouciant de bon aloi qui fait si légère et si douce l'atmosphère de notre pays. Les causeurs se taisaient soudain, comme s'ils avaient entendu, oh là-bas, on ne sait tout, quelques rumeurs menaçantes. Tant c'était autre chose qu'au jour du siège de Paris. Le caractère mystérieux, inexplicable de l'événement, réveillait au fond des âmes une sorte de mysticisme apeuré. Il subsiste en chacun de nous un sentiment de défiance contre le surnaturel. Le reporter parut le premier vers 6 heures du soir. Il était prolixe en détails sur les incidents qui avaient marqué dans la journée le travail lent mais inarrêté et qui semblait s'opérer dans l'appareil mystérieux et aussi dans le terrain où il s'enfouissait. Bien entendu, la fameuse commission était vituperée à souhait. Nos savants étaient habillés, comme on dit, de papier à ciliards, et ces critiques virulentes n'étaient pas faites pour rassurer le public. Les Parisiens avaient supporté beaucoup plus gaillardement le passage de la comète de Halley, qui finalement ne leur avait donné que le spectacle d'une magnifique aurore boréale. Ici, le danger semblait plus proche, plus tangible en quelque sorte. Chacun donnait son idée, toujours impraticable, sur les moyens d'en finir. Il fallait amener du canon et pulvériser l'appareil, ou bien apporter des tonnes de matériaux pour l'ensevelir. Soit, mais qui pouvait affirmer que le choc d'un obus, que l'écrasement sous des pierres ou du sable, n'amènerait pas une explosion épouvantable? Le reporter n'eut aucun succès, et même, comme il avait affecté à la fin de son article, de prendre un ton de plaisanterie goguenarde, il eut dans la foule un mouvement d'irritation qui se manifesta par les pires violences contre le papier innocent, dont on fit un auto-da-fé au carrefour Montmartre. Comme le nouvelliste était un peu en retard, des groupes compacts stationnaient devant la maison, toutes peintes en vert cru, que le journal a élevé au coin de la rue de Rouault. C'étaient des cris, de véritables vociférations. On ne sait quels caprices peuvent secouer les foules. Déjà, des enragés se jetaient sur les cadres de verre où d'ordinaire s'affichait le journal et les brisaient à coups de canne. On levait les poings vers l'énorme transparent qui, à la hauteur du deuxième étage, servait d'ordinaire à afficher les nouvelles sensationnelles et qui restait immaculé. Tout à coup, un éclair de magnésium illumina la façade. Il était 7h30 et le jour baissait. En même temps, toutes les lampes électriques s'allumèrent et de larges lettres noires apparurent sur le fond blanc du transparent. Poussant des exclamations frénétiques, la foule lut. « Sauvé ! Le mystère est connu ! Tout danger sera conjuré cette nuit même. Dans un quart d'heure, le nouvelliste dira toute la vérité. Coxward était bien Coxward. » Et ce fut alors, sur le boulevard, au moment où parurent les porteurs, une véritable émeute dans laquelle, une fois de plus, apparut la sauvagerie atavique. On s'arracha littéralement les journaux, on se battit, des paquets entiers jonchaient le sol sur lesquels se ruaient les gens les déchirant de leurs ongles impatients. Mais qu'importait au porteur grassement payé, au journal lui-même qui reconquérait du coup toute sa popularité et portait au reporter un coup d'assommage dont il ne se relèverait difficilement. C'était d'ailleurs pour le mieux lui asséner que le nouvelliste avait retardé son apparition, quoiqu'il fût lenti depuis 3 heures de la dépêche que la bergère lui avait adressée avant son départ de Londres et qui figurait en gros caractère en tête du numéro. Elle était ainsi conçue. « J'ai découvert la clé du mystère. L'appareil en question est un engin d'aviation mu par une pile de nouvelles inventions et d'une incroyable énergie. L'inventeur, qui se nomme Sir Arthur Random, part à l'instant pour Paris, où nous arriverons dans la soirée, accompagné de M. Bobby, le détective anglais, qui fut si fort vilipendé par certains de nos confrères, et qui, en reconnaissant le boxeur Coxward dans le mort de l'obélisque, disait l'exacte vérité. Coxward était venu en 1 heure de Londres à Paris par l'appareil de Sir Random, qu'il a baptisé du nom de Viriogir. Toutes explications, toutes preuves seront données par l'inventeur, qui comparaîtra ce soir même devant la commission scientifique, si elle daigne se réunir. 1 heure après, l'appareil aura été neutralisé. Donc plus d'inquiétude, nul danger ne menace Paris. et après un blanc d'un demi-centimètre, une nouvelle dépêche. Serons à Paris à 9h15, signé La Bergère. Chapitre 7. Les merveilles du Vrillium. Ces dépêches, avant d'être remises au journal, avaient, comme il est accoutumé dans notre pays où la censure est abolie, passé par le ministre de l'Intérieur. Communication en avait été donnée, toujours selon l'usage, à la préfecture de police, et en prévision de l'affluence considérable de curieux qui affluerait à la gare du Nord pour saluer l'arrivée des libérateurs de Paris, d'importantes mesures d'ordre avaient été prises. Mais c'était uniquement pour donner le change, car avant d'atteindre Paris, le train stoppa à Pantin, et avec une politesse d'ailleurs exquise, les trois voyageurs furent invités à descendre. La Bergère avait reconnu M. Lépine, ainsi que Bobby, qui avait frémi jusqu'au fond de son être, se souvenant avec indignation de l'arrêt d'expulsion dont lui et Mrs. Bobby avaient été l'objet. Quant à Suratel, il était à la fois trop anglais et trop grand seigneur pour laisser paraître le moindre signe d'étonnement. Le préfet s'expliqua avec la plus grande courtoisie. Il eut un mot poli pour Bobby et expliqua à Suratel que la mesure prise à son égard n'était dictée que par un respectable souci de l'ordre public. Il lui exposa en quelques mots l'état de fièvre dans lequel se trouvait Paris, l'émotion et l'espérance que suscitait son en arrivée. « J'en appelle à M. la Bergère, ajouta-t-il. Il vous dira que, dans ces moments d'affolement, il est bien difficile de maintenir les foules dans des conditions de calme et de raison. J'ai donc pensé que mieux valait vous soustraire, provisoirement du moins, à l'enthousiasme excessif de notre population. Si vous le voulez bien, nous nous rendons directement chez M. le ministre de l'Intérieur. Là, vous trouverez la commission scientifique qui a été nommée en raison des dangers redoutés. Il vous sera demandé de vous expliquer en toute sincérité sur la nature de l'engin qui nous cause tant d'inquiétude, sur la façon dont il est arrivé ici et enfin sur les mesures à prendre pour écarter toute complication nouvelle. » « Monsieur, dit Sir Arthur, je suis tout à votre disposition et à celle des autorités, bien que tout ce qui est arrivé de fâcheux ne soit absolument de mon fait. Je sais que seul je puis le réparer. Je comprends aussi que je dois m'expliquer aussi clairement et nettement que possible, ce que je ferai tout en sachant d'avance que je me heurterai à un certain scepticisme, dont j'espère d'ailleurs avoir facilement raison. » « Me permettez-vous d'accompagner, Sir Athel ?» demanda la bergère. « Bon, mais certainement, oui, vous pourrez fournir d'utiles renseignements. »« Je suppose, dit à son tour M. Bobby, qu'il n'existe aucune raison valable pour exclure le citoyen loyal et fidèle de Sa Majesté britannique que je suis, et qui, oh, je le dis avec quelque amertume, a quelques griefs valables contre l'administration française. » D'autant, ajouta la bergère en riant, que l'aventure de ce brave M. Bobby est étroitement liée à celle de l'engin de Sir Arthur. Comment cela ? Bah, en effet, dit Sir Arthur, cet engin est un appareil d'aviation, et c'est par lui qu'avait été transporté à Paris un certain Coxward. Mon Coxward, accentua M. Bobby. « Bien, bien, dit le préfet. Je ne comprends pas tout à fait, mais vous vous expliquerez tout à l'heure. Il est bon que tous les intéressés soient entendus. La commission pourra au moins nous prononcer en toute connaissance de cause. Bon, »« Quelques minutes seulement, demanda la bergère, pour téléphoner à mon journal et je suis à vous. »« Faites le plus vite possible, l'automobile est là qui nous amènera promptement à la place Beauvau. » Quelques instants après, l'auto roulait à toute vitesse dans la direction de Paris. 10 heures venaient de sonner au moment où il s'arrêtait devant le perron du ministère. Un huissier attendait, qui reçut les arrivants et les conduisit immédiatement dans la galerie précédant le bureau du ministre. Permettez-moi d'entrer le premier, dit le préfet. Soyez tranquille, l'attente ne sera pas de longue durée. Il entra chez le ministre qui, se levant, alla vivement à lui. Oh, je vous attends avec impatience, mon cher préfet. J'apprends que l'agitation augmente à toute minute, et on ne sait de quoi nos braves Parisiens sont capables en un coup de passion, et si un peu de peur s'en mêle. Votre anglais est là. Oui, je reconnais que son aspect est fait pour donner confiance. Un homme du monde, certainement, et d'après sa physionomie, d'intelligence exceptionnelle, ses yeux vous frapperont comme moi. Et il sait à quoi s'en tenir sur cette misérable mécanique qui nous donne tant de soucis. Oh, certes, puisqu'il s'en dit l'inventeur, j'ai amené avec lui le reporter La Bergère. Une de mes vieilles connaissances. Avec celui-là, on doit être fort économe de sa confiance. À moins qu'il ne soit intéressé à dire la vérité. Et je crois que c'est ici le cas. Je vous annonce aussi M. Bobby. Quid, M. Bobby ? Monsieur le ministre, ne se souvient-il pas de certains détectives anglais qui a failli révolutionner Paris en affirmant que le mort de l'obélisque trouvé à 5 heures du matin, place de la Concorde, était un nommé Coxward, qui avait été vu à Londres à 1 heure du matin ? Il avait fait du scandale pour soutenir ce mensonge. Mais qu'il en était pas un. Vous dites ? Monsieur le ministre entendra cela seul et comprendra tout. Nous n'ajoutons pas en plein mystère, mais en pleine étrangeté scientifique. Je crois que nous allons fort étonner, messieurs de la commission. Soit. Puisse votre anglais intelligent nous délivrer de notre cauchemar. Ne voulez-vous pas, monsieur le ministre, causer d'abord avec Sir Russell London ? Il devrait répéter devant la commission les explications qu'il m'aurait données. Perdons le moins de temps possible. Je me rends moi-même à la commission, que je vais chapitrer avant la comparution de nos hommes. Car le baromètre est un peu à l'orage. On vous appellera dans 5 minutes au plus tard. Le préfet revint auprès de Sir Raphaël, qui, toujours grave et pensif, n'avait pas échangé un seul mot avec ses deux compagnons. Peu d'instants après, une porte s'ouvrit et un huissier apparaissait, disant à haute voix « Monsieur le préfet de police et les personnes qui l'accompagnent !» Le préfet appuya sa main sur le bras de Sir Raphaël et l'introduisit avec lui dans la salle où siégeait la commission, selon les rites ordinaires, c'est-à-dire autour d'une longue table couverte d'un tapis vert. La Bergère et Bobby venaient en serre-file. Sur un signe du président, l'huissier le rapprocha des sièges sur lesquels ils prirent place. Le préfet à un des bouts de la table, le ministre restant à l'autre bout, mêlé aux membres de la commission. Le président prit la parole. « Monsieur le préfet, dit-il, c'est à votre requête que nous en sommes réunis d'urgence. Nous vous serons vivement reconnaissants de vouloir bien nous donner les motifs de cette convocation et soyez certains que nous vous écoutons avec le plus vif intérêt. » Je ne suis ici, dit enfin M. Lépine, que comme introducteur. J'ai donc l'honneur de vous présenter Sir Russell Random, sujet anglais qui va vous fournir des explications précises au sujet des faits dont Paris s'est violemment ému. Et M. La Bergère, reporter aux nouvelles listes, et Bobby, attaché à la police britannique, tous deux devant corroborer, mais dans ses détails, l'exposé de Sir Arthur London. Il faut dire que M. Poincaré, s'étant trouvé empêché à la dernière minute, avait délégué la présidence au doyen de la commission, le respectable M. Allavoine, dont la face large et rouge s'épanouissaient en deux immenses favoris blancs qui ressemblaient à des nageoires. « Monsieur Landon, dit-il à l'anglais, nous vous écoutons. » Sir Russell se leva. Nous avons dit que le jeune anglais était d'assez haute taille, très mince, le visage régulier, éclairé par deux yeux noirs d'une intensité remarquable. Ce qui frappait surtout en lui, après le développement de son front de penseur, qui rappelait celui de Victor Hugo, c'était l'exquise distinction de toute sa personne, la délicatesse de ses mains, la sobriété de ses gestes, et aussi, dès qu'il parlait, la sonorité harmonieuse d'une voix à la fois très mâle et très prenante. Ce fut sans aucun embarras qu'il répondit. Messieurs, d'après ce qui m'a été rapporté, il paraît que Paris s'inquiète d'un appareil singulier qui est tombé dans un terrain inhabité à l'extrémité d'un des faubourgs et dont jusqu'ici il aurait été impossible de s'approcher. Cet appareil, autant du moins qu'on peut en juger, en raison de son enfouissement partiel dans la terre, affecterait la forme d'un de vos kiosques à journaux ou d'une guérite ainsi que j'en ai vu à la porte de vos casernes. Enfin, on aurait relevé à quelque distance de l'engin les débris d'une hélice métallique. Oui, c'est bien cela. Vous est-il possible de nous dire ce qu'est cet engin et d'où il provient ? Pour rien de plus simple, dit doucement Sir Russell. Cet engin est un auto-aérien construit d'après les principes du plus lourd que l'air et qui diffère des aéroplanes en ce qu'il n'a ni aile ni gouvernail, qu'il est entièrement métallique et ne tient compte ni du vent ni des intempéries aériennes. Une sorte d'hélicoptère, se hâta de demander M. Verloret avec un regard de défi à l'adresse de son contradicteur à l'avoine. « S'il vous plaît, fit Sir Raphaël, je vous donne ces détails pour vous bien convaincre que je connais l'appareil dont il s'agit, puisque c'est moi qui l'ai construit. »« Vous êtes mécanicien ?» demanda M. Alavoine avec une légère moue de dédain. « Bon, je me présente. Je m'appelle Sir Arthur Random, élève et modeste collaborateur de William Crookes, le président de la Société Royale Scientifique de Londres. Et si la chose pouvait vous intéresser, je pourrais vous énumérer les titres et diplômes que m'ont conférés les plus importantes institutions scientifiques de la Grande-Bretagne. Peut-être même pourrez-vous vous souvenir de certains mémoires sur les terres rares qui eut l'honneur de la lecture et dont votre généreux regretté collègue M. Berthelot voulut bien faire l'éloge en termes qui, je l'avoue, eussent donné quelque orgueil à tout autre que moi. « Ben oui, je me le rappelle fort bien, » dit une voix cassée. « Ce mémoire a été inséré dans le journal des savants. Oh, il est fort remarquable !»« Je vous remercie, » dit Sir Raphaël. « Bon, je reviens au fait qui nous intéresse. » Cet appareil est en réalité des plus simples. Ce qui le différencie de ceux qui ont été construits jusqu'ici, c'est qu'il comporte deux hélices, l'une à la partie supérieure et l'autre à la partie inférieure. Elles sont mues par un arbre de couche, simple tige métallique qui obéit elle-même à un moteur de très petite dimension. La direction est obtenue par un système d'inclinaison de l'une ou l'autre hélice, selon la volonté de l'opérateur. Mon intention était de ne faire mon premier et définitif essai de cet aviateur d'un gerbe nouveau qu'à la fin du présent mois. Et je serais certainement passé par Paris, mais ce n'eût été qu'une étape, mon plan bien arrêté et comportant le tour du monde, en passant par la Russie, la Sibérie, la Chine et le Japon, avec retour par l'Amérique du Nord. Il s'arrêta un instant. Les membres de la commission, commençant à donner des signes non équivoques d'impatiente incrédulité. Le ministre se demandait lui-même si on n'était pas victime d'un humbug excessif ou de la monomanie d'un fou. Mais le préfet, qui avait mieux l'habitude de l'invraisemblable, et à qui, il faut bien le dire, la physionomie de Sir Russell plaisait fort, lui fit signe de continuer. Sir Russell, toujours très froid, et comme s'il eût disserté sur les matières les plus simples du monde, reprit la parole. « Je comprends, messieurs, que mes affirmations puissent à première audition paraître entachées d'une certaine exagération. Mais je vous prie de croire que je n'ai pas dit un seul mot qui ne soit l'expression de la plus absolue vérité, ainsi que d'ailleurs j'aurai l'honneur de vous en donner la preuve décisive. » « Une seule observation, dit l'illustre Lavoine. Vous parlez de moteur, mais quel est-il ? Et de quelle substance l'approvisionnez-vous ? » C'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais permettez-moi de reprendre mon exposé selon le plan que je me suis tracé. La question qui vous intéresse le plus, c'est de savoir comment cet appareil, qui le 1er avril à 1h du matin se trouvait dans la cour de ma maison, Corsica Street, dans le faubourg d'Highbury à Londres, est venu s'échouer dans un terrain de votre capitale. Eh bien voilà ce qui s'est passé. Et très nettement, il raconta la scène que nous connaissons, l'apparition subite d'un inconnu, son intrusion dans l'appareil, puis le départ instantané, l'enlèvement et la disparition. Ce malheureux dont j'ai déploré le sort a été emporté avec une vitesse vertigineuse. Il a évidemment fait jouer inconsciemment le moteur, sans aucune notion de la façon de le diriger, de le modérer. Il a été enlevé à une hauteur que je puis évaluer à 2 ou peut-être 3 000 mètres. Le moteur était orienté à l'est, et alors il a piqué droit sur la France. Je suppose, car ici je suis réduit moi-même à une hypothèse, que le premier étourdissement passé, le malheureux s'est affolé, a essayé de s'échapper de la cage dans laquelle il s'était si involontairement séquestré. Qu'a-t-il fait ? À quel ressort s'est-il accroché ? Je ne pourrais le savoir que lorsque j'aurai moi-même très soigneusement examiné l'appareil. Mais je le soupçonne fort d'avoir fait jouer l'hélice supérieure, auquel cas la descente a dû être foudroyante. L'homme, perdant l'équilibre, est tombé d'abord au milieu de votre ville, et son cadavre, à ce que j'ai appris, a été retrouvé au pied d'un de vos monuments publics. Quant à l'appareil, il me paraît probable que, sous l'impulsion du moteur inarrêté, il a fait un bond prodigieux. Mais l'équilibre étant rompu, il s'est abattu à l'endroit où il a été trouvé, ayant fouillé la terre comme pour s'y frayer un passage. Je sais, depuis hier, que l'homme qui fut la malheureuse victime de son imprudence est un nommé John Coxward, dont l'identité fut difficile à établir en raison de rapprochements de dates qui rendaient invraisemblable sa présence presque simultanée en deux endroits éloignés de l'un de l'autre. Du reste, à ce sujet, M. Bobby pourra vous fournir des explications précises qui sont appuyés par le témoignage de M. Labergère. Les membres de la commission se sentaient fort perplexes. Toute cette histoire avait été débitée d'un ton grave et qui, en dépit de leur partialité, excluait toute idée de mystification. Mais scientifiquement, cela ne tenait pas debout, et nos illustres savants ne craignaient rien tant que d'être victimes d'une facétie qui aurait déconsidéré les nobles académies qu'il représentait. On entendit Bobby et la bergère. Le récit est très solennel de la part du détective anglais, qui insista plus que de raison sur les avanies imméritées que lui avait attirées l'affaire Cosward, plein de désinvolture au contraire de la part du reporter enchanté de l'aventure, troublait la commission, mais sans la convaincre. La peur du ridicule dominait. après s'être consulté avec ses collègues. « Sir Arthur Rondon, dit le président, loin de nous la pensée de mettre votre parole en doute. Cependant, il s'agit, vous le reconnaissez, d'intérêts fort graves. Vous vous faites fort, nous avez-vous dit, d'enlever, de faire disparaître ou tout au moins de neutraliser l'appareil dangereux qui inquiète à bon droit la ville de Paris. Mais avant de vous autoriser à une tentative qui, remarquez-le, peut mettre votre propre vie en péril en même temps que compromettre la sécurité de tout un quartier de Paris, il nous semble que quelques précisions sont nécessaires. Vous parlez d'un moteur de très petit volume dont la force serait telle qu'elle ferait agir un mécanisme pendant des journées, des semaines, des mois peut-être. Bon, vous pouvez dire des années, rectifia Sir Arthur. Sans être renouvelé? Exactement. Ben, vous avouerez vous-même que ce sont là des conditions tellement exceptionnelles, si contraires à tout ce que jusqu'ici nous a révélé l'expérience, qu'elles pourraient être qualifiées de miraculeuses. Il n'y a pas de miracle, interrompit encore Sir Arthur. Sinon, je n'en connaîtrais pas de plus étrange que l'expérience banale qui s'opère dans un ballon de verre. Deux gaz invisibles, oxygène et hydrogène, produisant de l'eau sous l'action d'une décharge électrique. Monsieur Alavoine toussa. Ce diable d'homme avait réponse à tout. Mais quoi qu'il en soit, vous ne trouverez sans doute pas étonnant, monsieur, que nous vous demandions quels sont, grosso modo, la nature, le mécanisme de votre moteur et quel est le produit qui l'actionne. Oh, je redoute que mes explications vous paraissent un peu longues, dit Sir Arthur, d'autant que votre impatience doit être grande de mettre fin aux angoisses de votre ville. Cependant, il ne m'appartient pas de vous refuser ce que vous me demandez. Mon moteur n'est alimenté par aucune substance, car il est la substance elle-même, produisant le mouvement par sa propre action. Il est d'une force colossale, car 1 milligramme suffirait à pulvériser la maison où nous sommes. Il est inépuisable, car sa déperdition par l'action peut se mesurer à 1/10 millionième de gramme par 24 heures. Malgré leur patience, les membres de la commission laissèrent échapper quelques « oh » corsés de quelques « ah » d'incrédulité. Sera seul, pour la première fois, se prit à sourire. Vous ne pourriez pas mettre à ma disposition un bloc minéral quelconque, d'une seule pièce, pavé de grès, objet en marbre. Je me permettrai de vous démontrer, sans danger pour personne, bien entendu, un des effets de la matière dont est composé mon moteur. Il y eut un moment d'hésitation. L'offre était tentante. Les vieux comme les jeunes aiment les expériences. C'est toujours un peu du théâtre. Justement, il y avait sur le milieu de la table verte un énorme encrier de marbre, pesant au moins 3 kilos, et dont la spécialité était de ne jamais contenir d'encre. « Finissons-en, dit Monsieur Alavoine, exercez votre puissance. » Le mot fut dit avec un fort accent d'ironie sur ce bloc de marbre. Sir Arthur s'approcha. Bon, cet objet n'a aucune valeur artistique, c'est bien, vous n'aurez rien à regretter. Il fouilla dans la poche de son gilet et en tira un objet qui ressemblait à s'y méprendre un porte-crayon d'or. C'était mince et coquet. Il le mania, le mettant bien en vue pour toute la commission. « Bon, ceci est bien peu de chose, messieurs. La force renfermée dans ce petit tube est cependant telle que les adjectifs les plus excessifs ne pourraient la qualifier. » Et comme il lui semblait lire sur le visage de ses auditeurs des signes évidents d'inquiétude, « Oh, soyez sans crainte aucune, messieurs. L'opération va s'accomplir sans bruit appréciable et sans manifestation inquiétante. » En vérité, tous retenaient leur haleine et ceux qui faisaient meilleur visage n'en avaient pas moins la poitrine quelque peu serrée. Les yeux du préfet éclataient de curiosité. Quant au ministre, dont le devoir était d'être impassible, il s'était contenté de baisser légèrement les paupières. Sir Russell vint à table, attira l'encrier sur le bord, puis s'étant penché, avec l'attention d'un chirurgien qui cherche le point juste où frappera son bistouri, il toucha le morceau de marbre de la pointe de son porte-crayon. Il eut un léger, très léger craquement, comme d'un ressort de montre qui se brise. Et à la place de l'encrier, il ne restait sur la table qu'un petit tas de poudre à peine de quoi remplir un coquetier. Des cris éclatèrent, tous s'étaient levés et groupés autour de ce résidu. Ils ne pouvaient plus douter, ils avaient vu, de leurs yeux vus. « Je crois, dit Sir Russell, qu'un de vos compatriotes, le docteur Lebon, appelle cela la dissociation de la matière. » Inouï, stupéfiant, renversant. C'est avec ce petit tube. Des mains se tendaient vers l'objet que Sir Russell tenait entre le pouce et l'index comme une tige de fleur. Il donna un léger tour à une virole et remit le tube dans sa poche, tout simplement. Ne risquons pas d'accident, dit-il. L'objet est d'un maniement fort délicat. Et son usage nécessite un apprentissage assez long. J'ai mis 10 ans, messieurs, à me rendre maître de cette force. Et de quoi est composée cette substance? Mais comment l'avez-vous obtenue? Toute question qui nous mènerait bien loin, répliqua Sir Russell. Mais du moins, comment le nommez-vous? Oh, je l'ai baptisé le Vrillium. « Vrillium ?» répétèrent les gens, cherchant une étymologie qu'ils ne trouvaient pas, parce que ce n'était pas du grec. « Non, purement un fantaisiste, messieurs. Peut-être avez-vous lu cependant un livre fort remarquable d'un de mes plus célèbres compatriotes, La race future, par Sir Henry Bulwer Lytton. Il s'agit d'un ce roman utopique, si l'on veut. » Mais où je vois pour ma part une anticipation de l'avenir, d'un peuple que la science a armé d'une force si puissante, si irrésistible et à la fois si maniable, qu'elle est à la disposition de tous, hommes, femmes ou enfants, qui n'est pas d'obstacle qu'elle ne renverse, de résistance qu'elle ne brise, si bien que les effets se neutralisent les uns par les autres, sous peine de destruction mutuelle et d'anéantissement réciproque. Nul ne peut attaquer son prochain. Et par le développement de la force, la vertu, la patience, la bonté règnent sur la terre. Mais entendez-le bien, parce que cette force n'est pas aux mains de quelques-uns, mais au pouvoir de tous, des plus faibles comme des plus vigoureux. Elle rétablit l'égalité, par conséquent, la liberté. Et cette force, notre Bulwer l'a appelé le vril, d'où le nom de vrillium que j'ai donné à la substance que j'ai découverte. Quant à cette substance elle-même, en un mot, suffira à vous en faire comprendre la nature. Elle est analogue au gallium que découvrit jadis votre grand compatriote, le coq de Bois Baudran, et surtout au radium de votre immortel Curie. Elle prend rang à la tête des terres dites rares, dont je vous cite les noms pour mémoire. L'yttrium, le palladium, l'osmium, le ruthénium, le vanadium et enfin le polonium, révélés tout récemment par Madame Curie. Et m'aidant des travaux de mes prédécesseurs, de Sir Arthur Ramsay, de Lord Raleigh, de Norman Lockyer, de Messieurs Berthelot, Becquerel, Lebon et tant d'autres. J'ai découvert, moi, le vrillium, dont j'ai tenté une première utilisation pratique en le domestiquant pour l'aviation. Le moteur de mon appareil est donc le vrillium, émanant la force de lui-même, comme le radium émane de la lumière et de la chaleur, mais en proportion telle qu'adapté à un mécanisme approprié, il détermine des rotations de 20 000 tours par minute. Le petit appareil que j'ai sorti de ma poche est muni d'une imperceptible tarière faite d'une pointe de diamant. C'est pourquoi en une seconde, elle désagrège, sous une rotation que lui imprime le brillium, les blocs les plus durs, à condition bien entendu qu'on l'applique à ce que la science hindoue appelle le centre de l'Aya. Oh, je me réserve d'expliquer cela plus tard. C'est-à-dire le point où, en toute masse concrète, toutes les molécules s'appuient et se soutiennent les unes les autres. Mais j'en ai trop dit, messieurs, et je craindrais d'abuser de votre patience. Si vous voulez bien me faire confiance, je me livrerai sans plus tarder aux opérations nécessaires pour neutraliser l'effet de mon vrilliolgir et délivrer votre beau Paris des angoisses que je lui ai bien involontairement causées. » Il y eut une acclamation approbative. Le jeune Anglais avait eu enfin raison des défiances et des jalousies inavouées des savants officiels. Certes, plus tard, quand il se ressaisirait, il traiterait toutes ces affirmations de chimères, sinon de mensonges. Mais devant le petit tas de poussière de marbre, il se sentait désarçonné et ne cachait pas leur enthousiasme. Le ministre et le préfet s'étaient emparés de Sir Russell et s'entendaient avec lui pour les mesures à prendre en vue de l'opération qui aurait lieu le lendemain à 10 heures du matin. La seule inquiétude que témoigna Sir Russell, c'était que la qualité du virilium dont était chargé l'appareil enfoui ne produisit d'énormes étincelles qui pourraient effrayer le voisinage, et il importait de prévenir toute panique. Sir Russell répondait de tout, autant du moins, ajoutait-il, que les prévisions humaines le peuvent permettre. Et encore, le danger à supposer qu'il existât n'existerait que pour lui-même. Et comme le ministre se récriait, l'adjurant de prendre toutes les précautions nécessaires, lui offrant même de reculer l'opération pour lui laisser le temps de mettre toutes choses au point, « Monsieur le ministre, dit simplement Sir Russell, le plus humble chimiste dans son laboratoire risque sa vie 20 fois par jour. Et la statistique prouve, conclut-il en souriant, que c'est une des fonctions qui mène leur homme à l'âge le plus avancé. » Rendez-vous fut pris pour le lendemain, 9h30, au terrain de la rue des Carrières d'Amérique. Un cordon de troupes tiendrait le public à distance suffisante. Sir Russell entendait agir seul. Il n'admettait auprès de lui que les autorités supérieures, le préfet de police. Et le reporter du Nouvelliste, fit une voix mâle qui n'était autre que celle de la bergère. Oh, je ne puis rien vous refuser, répondit courtoisement Sir Russell. Eh bien, et à moi, hasarda Bobby. « S'il n'avait pas fait tout mon tapage autour de Coxwell, est-ce que les journaux n'en seraient occupés? Est-ce que ce ne sont pas les injures dont on m'a accablé qui ont donné l'éveil? Sir Russell, vous ne pousserez pas l'ingratitude jusqu'à me repousser. » « Vous serez des nôtres, mon cher monsieur Bobby, » dit l'Anglais. Les dernières salutations furent échangées. Sir Russell se fit conduire au Carlton, où dès le lendemain matin, la bergerie viendrait le rechercher. Et quand ils se furent serrés les mains sur le seuil de l'hôtel Beauvau, la bergère, restée seule avec Bobby, lui prit familièrement le bras. « Toi, mon vieux Bobby, tu vas venir avec moi au Nouvelliste. Il faut qu'on te voie, on te photographiera. Et ta binette paraîtra demain en première page. Nous ferons mon article ensemble, et après ça, Nous irons casser une croûte à l'Amérique, hein ? Bon, Bobby, des truffes, du champagne et des petites femmes. Bobby se laissa entraîner. Hélas, tous ces gens croyaient toucher un dénouement. Pouvaient-ils deviner les horribles traîtrises du destin qui les guettaient ?